Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. C'est historique, 17 ans après la sortie du premier iPhone, Apple est devenu le plus gros vendeur de smartphones au monde sur une année entière. Apple a dépassé pour la première fois son grand rival Samsung en écoulant 234 millions d'iPhone en 2023. On va discuter avec Christophe de cette incroyable ascension. Dans le reste de l'actualité, les précommandes du Vision Pro sont maintenant ouvertes, l'Apple Watch perd une fonction aux États-Unis et le président de la République s'inquiète du temps passé devant les écrans. Nous sommes le samedi 20 janvier, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. C'était champagne à tous les étages cette semaine à l'Apple Park. Tim Cook a pu fêter la première place de vendeur de smartphones au monde et l'ouverture des précommandes du Vision Pro. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, oui ça va, bonjour à tous.
Est-ce que tu es content de contribuer à la première place mondiale d'Apple avec ton iPhone ?
Ah mais je n'ai pas d'iPhone 15 ou d'iPhone 15 Pro, donc non, ah, je n'ai pas contribué à cette victoire.
Un petit peu quand même avec ma génération, on a passé quelques commandes d'iPhone 15 l'année dernière.
Oui, c'est vrai.
Alors je l'ai dit en introduction, c'est historique. Apple passe pour la première fois devant Samsung et devient ainsi le plus gros vendeur de smartphones au monde. D'après IDC, Apple a écoulé 234 millions d'iPhone en 2023, contre 226 millions de Galaxy. Alors il faut préciser que ce sont des estimations, Apple ne communique plus le nombre d'iPhone vendus depuis des années, mais la marge entre les deux marques est quand même assez conséquente. Et puis on voit que les dynamiques sont bien différentes, d'un côté les ventes de Samsung ont reculé de près de 14%, tandis que celles d'Apple ont progressé d'environ 4%. Et d'ailleurs parmi les marques historiques du top 5, Apple est la seule marque qui voit ses ventes progresser. Alors comment tu expliques ce succès, Christophe ?
Peut-être qu'ils vont avoir envie de communiquer sur les chiffres, là, soudainement. Ça va peut-être leur donner des idées. Non, mais alors, la question qu'il faut se poser, moi, je la pose comme ça. Est-ce que c'est une victoire d'Apple ou une défaite de Samsung ? Alors, pour tenter de répondre à cette question, je vais raconter une anecdote. Cette semaine, je discutais avec un confrère des annonces de Samsung. Alors, sur leur site, bon, je vais pas le nommer, hein, ça va de soi. Ils ont bien couvert l'événement. C'était vraiment journée spéciale. Ils ont fait vraiment les choses à fond. Alors, bon, il me dit naturellement que c'est beaucoup de travail, un peu comme pour nous quand on fait, par exemple, une couverture pour le lancement d'un nouvel iPhone. Mais alors, je lui demande naïvement, alors, ça fait de l'audience, est-ce que ça valait la peine de se donner autant de mal? Et il m'a dit, non, pas du tout, non. on a fait relativement peu de trafic. Alors, je précise que le site en question, il n'est pas du tout centré sur Apple, hein, c'est vraiment un site, on va dire, généraliste au niveau de la tech. Donc, il n'y a pas de biais. Mais je crois que ça illustre parfaitement le malaise finalement autour de Samsung. Sur l'entrée milieu de gamme, Samsung doit de plus en plus se battre avec la concurrence chinoise, elle a perdu beaucoup de terrain. Et sur le haut de gamme, domaine sur lequel elle essaie de se positionner de plus en plus, hein, les nouveaux smartphones présentés cette semaine sont quand même relativement chers. L'Ultra est à 1 500 €, ouais. Un truc comme ça. Et ben, il y a la concurrence d'Apple. Et bon, bah là, c'est forcément difficile. Il reste un créneau qui est peut-être source d'espoir pour Samsung, on va dire, c'est le très 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 haut de gamme avec les téléphones pliables. Notre ami Félix, qui est actuellement en Corée, nous a dit ne jamais en avoir vu autant en si peu de temps. Donc voilà, peut-être que c'est une source d'espoir pour Samsung. Alors pour Apple, c'est une position hautement symbolique. Et qui sait, si la crise de Samsung se prolonge, elle pourrait peut-être conserver cette place pendant quelques années. Il faut aussi le rappeler qu'il y a quelques années, cette première place semblait promise à Huawei.
Ouais.
Bon, il y a eu effectivement les États-Unis qui ont en décidé autrement. Sinon, est-ce que tu connais la malédiction des plus gros vendeurs de téléphones au monde ?
Je sais pas, tu penses à Nokia par exemple, qui a
complètement
attiré les smartphones.
Voilà. Alors cette malédiction se vérifie, Samsung c'est bientôt mort et Apple d'ici quelques années, quand ils perdront cette première place, ça va très mal finir. le numéro 1 avant Samsung, c'était Nokia. Bon, maintenant que Nokia n'existe plus sur la carte des téléphones depuis longtemps. Et sais-tu qui était avant Nokia le numéro 1, le plus gros vendeur de téléphones au monde ?
Avant Nokia ?
Ouais.
Motorola, quelque chose comme ça, non ?
Bien joué. Oui, Motorola, ouais. Ah, là, tu m'impressionnes. Moi, je fais des recherches en Google avant de trouver ça. Et donc, pour Motorola, ça, effectivement, c'est également mal fini. Donc voilà, bon courage à Samsung et voilà, qu'Apple profite parce que normalement après ça pourrait mal se passer.
Et ben on en vient justement au nouveau sujet, c'est que voilà, donc Apple est maintenant domine le monde avec l'iPhone et il faut trouver peut-être le nouveau prochain gros produit qui pourrait remplacer les téléphones. Et est-ce que c'est pas le Vision Pro ? Donc les précommandes viennent d'ouvrir aux États-Unis pour le Vision Pro. Depuis hier, les Américains peuvent commander ce produit qu'ils recevront au plus tôt le 2 février. Alors pour tout dire, on enregistre ce podcast vendredi matin, avant l'ouverture des précommandes. Donc on ne sait pas encore si les Vision Pro ont été pris d'assaut, mais vous avez toutes les infos maintenant sur Watch Generation. Alors au milieu de la semaine, quelques journalistes américains ont pu tester à nouveau le casque. Les nouveautés par rapport aux précédents essais, c'est qu'ils ont pu publier des photos d'eux-mêmes, avec le casque sur la tête, et qu'ils ont expérimenté EyeSight, l'écran externe qui affiche des yeux virtuels, cette fonction un peu bizarre là. Mais si Apple comptait sur ses nouvelles prises en main pour booster les précommandes, ben c'est pas forcément réussi.
Oui, alors le premier constat, c'est qu'on n'a pas l'air très malin avec un casque sur la tête, ça si on peut le dire. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi, enfin c'est assez bizarre, Apple n'a pas voulu que les testeurs prennent de photos avec EyeSight activé. Je sais pas, est-ce qu'ils pensent que c'est un effet waouh ou est-ce qu'ils assument pas, j'en ai aucune idée. Je continue avec mes questions, est-ce que tu connais le point commun entre le Vision Pro et le Lisa ?
Peut-être le prix très élevé au départ.
c'est effectivement, on va dire... Alors, ils ont été tous les deux lancés un 19 janvier.
Ah, ok.
Alors, je ne sais pas s'il faut voir un parallèle à tracer entre ces deux produits. Est-ce que le Vision Pro et le Lisa du 21e siècle, donc le Lisa, c'est l'ordinateur qui, en quelque sorte, a un petit peu préfiguré le Macintosh, était vendu à $9,995. Bon, voilà, voilà qui fait réfléchir. Alors, là, en plus, c'est sans prendre en compte l'inflation. Hein, ouais. Donc, on parle d'un produit qui est sorti il y a une quarantaine d'années. Hein, donc, voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et c'est donc l'addition avec les dollars d'aujourd'hui serait bien plus élevée. Bon, alors, pour le reste, à part dire que ce sont deux produits révolutionnaires, voilà. C'est toujours difficile de se faire un avis sur le Vision Pro, tant les démos avaient l'air encadrées par les employés d'Apple.
Ouais.
Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont eu a priori un circuit de test relativement, enfin très cadré. Et donc, à les lire, on a l'impression d'avoir un appareil qui est super pour la consultation. Mais voilà, mais pour l'instant, ça se limite à ça. Et c'est dommage, enfin, même si Apple commence un tout petit peu à communiquer là-dessus, que Apple ne s'est pas davantage étendu sur les usages du Vision Pro. A priori, Gurman raconte qu'Apple place notamment de grands espoirs dans le Vision Pro, dans le milieu médical. Ça pourrait être un outil qui pourrait justement entraîner les futurs chirurgiens à simuler des opérations. On en est un petit peu là, on attend. Les prochains jours vont être, je pense, très très intéressants. Et voilà, après, on est dans un lancement qui est quand même relativement curieux. Enfin, ce qui serait intéressant, c'est lorsque les gens auront le produit entre leurs mains et qu'il n'y aura pas Apple derrière pour dire « faites ci, faites pas ça, faites ci, faites pas ça » et voir vraiment ce que ça donne au quotidien et qu'est-ce qu'on peut faire de ce produit.
Oui, c'est ça, parce que pour l'instant, c'était à chaque fois des démos de 30 minutes. 30 minutes, c'est court. Et puis, comme tu l'as dit, très encadré, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas lancer n'importe quelle application. Et là, la dernière, cette semaine, c'était visiblement très axé sur la consultation de contenu. Il y avait eu une annonce aussi sur le Disney, avec une version spéciale de Disney Plus pour le Vision Pro. Donc,
On est tous convaincus que c'est un super appareil pour la consommation de contenu et pour les expériences immersives. Moi, j'ai hâte de m'amuser, de me retrouver nez à nez avec un dinosaure, avec la fameuse application qui a été représentée cette semaine. Mais là, il y a un souci d'adéquation entre le type d'expérience proposée et le prix.
Oui.
Alors effectivement, l'intérêt du Vision Pro, c'est de pouvoir faire autre chose que cela. Et c'est là où ça reste pour l'instant la grande inconnue.
C'est ça. Alors aux États-Unis toujours, le feuilleton continue entre Apple et Massimo autour de l'Apple Watch. Alors pour rappel, Apple a été reconnu coupable d'avoir violé des brevets de Massimo pour une fonction de santé de sa montre. Cette semaine, Apple n'a pas obtenu de prolongation, de suspension, d'interdiction de vente. Alors dit plus simplement, ça veut dire que les Series 9 et Ultra 2 sont interdites aux États-Unis tant qu'elles enfreignent les brevets de Massimo. Apple a trouvé une solution pour contourner cette interdiction. Elle a purement et simplement retiré la fonction litigieuse. Donc, les consommateurs américains peuvent acheter une Apple Watch, mais celle-ci n'a plus la mesure de taux d'oxygénation dans le sang. Est-ce que ça s'est déjà vu un appareil Apple amputé d'une de ses fonctions pour contourner une interdiction de vente ?
Attends, tu as 15 secondes, je lance l'application oxygène sanguin. Ah, 100%, tout va bien. Ah, les Américains vont enfin savoir ce que c'est d'être un client d'Apple de seconde zone. Sans Apple News, sans Apple Pay Cash ou encore sans Apple Card. Ah, ça fait, voilà. Pour répondre à ta question, j'ai cherché un petit peu. J'ai pas de souvenir très précis, c'est peut-être bien une première. Alors, c'est très facile à dire depuis nos fauteuils de commentateurs, mais on a quand même l'impression d'être dans l'amateurisme plus complet. Est-ce qu'il y a eu une suffisance de la part d'Apple ? Est-ce qu'elle n'a pas vu le coup venir ? Maintenant, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'elle va trouver un accord avec Massimo ? Est-ce qu'elle espère bien gagner en appel ? Est-ce qu'elle va retravailler cette fonctionnalité de manière à ce qu'elle n'enfreigne plus les brevets de Massimo ? Est-ce que la réponse à ce problème se trouvera dans les prochaines générations d'Apple Watch ? Apple avait l'air de dire qu'elle pouvait régler le problème de manière logicielle. Les dirigeants de Massimo laissent entendre le contraire. D'ailleurs, ils disent que c'est pas plus mal que cette fonction ne soit pas sur l'Apple Watch parce que c'est pas une fonction médicale sur l'Apple Watch. Apple n'a pas eu l'homologation pour ça. On va dire que c'est un petit peu le bazar et oui, ça fait un petit peu désordre. Sachant que, enfin, on l'a déjà dit, c'est une fonctionnalité qui, malgré tout, dans l'état, n'est pas très, très, très utile. On va dire pour le commun des mortels, à moins que vous amusiez souvent à aller en haute altitude et à regarder à quel point votre corps s'acclimate vite à l'altitude. Mais voilà, c'est curieux. Il n'y a rien, d'autre à dire à part que c'est curieux.
Je ne suis pas sûr que ça gêne beaucoup les ventes d'Apple Watch dans les prochaines semaines, dans les prochains mois aux États-Unis. Et puis, on a l'impression aussi que si un accord est trouvé ou qu'Apple trouve un moyen de contourner les brevets de Massimo, cette fonction, elle pourra revenir sur les Apple Watch qui ont été mises en vente aux États-Unis depuis cette semaine.
Non, bien sûr, mais il y a deux choses qui sont étonnantes. Enfin, je pense que la concurrence ne va pas se prier pour s'en moquer. Hein. C'est une aubaine. Ouais. Et voilà, et le point qui est aussi étonnant, c'est que, bon, bah, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans les montres sportives et connectées. Et voilà, les autres, les Garmin, les Coros et compagnie, n'ont pas ce problème-là. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'Apple fait. Enfin, c'est vrai qu'il y a un passif entre Apple et Massimo avec des transferts d'employés. Mais voilà, ça reste étonnant.
Et on termine le tour de l'actu avec une déclaration du président de la République au sujet de l'utilisation des smartphones et plus généralement les écrans. Lors d'une conférence de presse, il a estimé que les écrans enfermaient trop souvent là où ils devaient libérer et qu'ils bouleversaient beaucoup de repères, en particulier pour les enfants. Emmanuel Macron a annoncé qu'une commission d'experts avait été mise en place pour donner des recommandations sur ce sujet et qu'il n'excluait pas des restrictions ou des interdictions de contenu. Alors, des contrôles de temps d'écran existent depuis des années, en fait. Il y a même eu une loi votée l'année dernière pour renforcer le contrôle. Mais est-ce que ces outils sont efficaces ?
Ouais, c'est compliqué comme débat. et moi, je suis confronté à ce problème au quotidien. Alors moi, je trouve ça bien qu'il y a une commission qui se penche sur le sujet, qui essaie de pas d'établir des règles, mais voilà, qu'on ait au moins un consensus scientifique sur la question, ça peut pas faire de mal. Sachant que oui, il y a effectivement un problème. C'est sûr qu'une grande partie de la jeunesse passe trop de temps devant un écran. En plus, c'est pas toujours du temps de qualité, voilà, c'est un sujet qui est compliqué, comme je le disais.
Moi, c'est surtout ça le problème, peut-être, c'est qu'est-ce que tu fais devant l'écran, quoi.
Oui, voilà, et effectivement, il y a plus souvent, les jeunes passent plus de temps sur TikTok que sur le service de VOD d'Arte. Quoique Arte n'est pas forcément... Enfin, il y aura aussi des choses à dire sur Arte, et il y a des choses très bien sur TikTok, hein, faut quand même le dire.
Oui, oui.
Moi, le problème de cette affaire, enfin l'un des problèmes de cette affaire, enfin, on va parler uniquement d'un point de vue technique, c'est que je trouve les outils proposés par les fabricants relativement médiocres. Par exemple, on va parler de temps d'écran pour Apple. Et vraiment, c'est une expérience personnelle. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai essayé d'utiliser ce système-là avec mes enfants. Et j'ai d'énormes problèmes de synchronisation entre mon terminal et le leur. Et là, on se retrouve effectivement... Dès qu'il s'agit de synchroniser un fichier, iCloud a toujours un petit peu de mal. Et par exemple, je peux leur dire, bon, bah aujourd'hui, je vous donne 30 minutes ou une heure pour faire ci ou ça. Et eux, pendant ce temps, en parallèle, au lieu d'avoir 30 minutes ou une heure, ils se retrouvent avec un temps illimité pour toute la journée. C'est relativement moyen. Et alors, c'est un peu la même chose, effectivement, par exemple, pour la Switch. Nintendo avait vanté son système de temps d'écran que lorsqu'il avait présenté la console. Alors, moi, il y a des trucs que je trouve relativement bizarres, c'est-à-dire que tu peux dire à ton enfant via ce système-là, bon, la console, tu arrêtes d'y jouer à partir de 21h. Mais il n'y a pas un système qui dit dans ce système de temps d'écran, non, mais attends, tu vas pas jouer à ta... Il y a interdiction de jouer à la console avant 10h du matin. Voilà, il y a plein de petites choses. Alors normalement, ces outils-là sont mis en place pour aider les parents, et j'ai presque tendance à dire que c'est pas qu'ils sont contre-productifs, mais ils aident. Enfin, ils simplifient pas la vie. De toute façon, c'est sûr que ces questions de temps d'écran, on ne peut pas les traiter uniquement avec des outils. C'est aussi beaucoup de pédagogie, le dialogue avec les enfants. Parfois aussi enfin, il faut aussi des fois avoir la main plus lourde et sanctionner, hein. Et c'est relativement compliqué, et moi je trouve plutôt bien que le président en ait parlé, même si j'aime pas trop cette histoire de... il a parlé, et éventuellement tu lui disais de restreindre ou d'interdire, ça j'aime pas du tout, bien sûr, mais moi je me dis que nous on est des parents, on est dans la tech, on est au courant, on maîtrise les outils, on maîtrise les technologies, donc on sait de quoi on parle, et quelque part on est plus fort que les enfants quand même, malgré tout, avec un smartphone ou une console de jeu. Mais pour les parents qui ne s'y connaissent pas du tout, je pense que ça va être quand même quelque chose de très complexe à gérer, et voilà, et c'est pas plus mal pour une fois que l'État vienne mettre son nez là-dedans.
Eh bien, merci Christophe pour ce point sur l'actu. Bon week-end.
Bon week-end.
Et à bientôt pour un prochain rendez-vous de Sortie de Veille. Salut.